strada ci si ammala un eccesso. Non siamo il sagittario di puro di ferro. La vita so triste. La vita serait moche. Alors, alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence, avec aujourd'hui au programme un long entretien avec Philippe Besson pour son très beau et essentiel dernier roman paru aux éditions Julliard et qui s'intitule « Ceci n'est pas un fait divers ». Ce sera pour la première partie d'émission. Et en deuxième partie, on retrouvera la chronique de Gérard Guégan, chronique qui parlera de trois ouvrages très différents, mais tous les trois méritant le détour et le coup d'œil. Il s'agit du livre de Jérôme Orsoni qui s'intitule « Et pourtant, c'est la guerre » paru aux éditions Abrupt, du premier roman de Céline Navarre qui s'intitule « L'envers des ombres » paru chez Gallimard, et d'un roman intitulé « Les archives des sentiments » de Peter Stamm, paru aux éditions Christian Bourgois. Voilà le programme du jour dans Idéaux et débats. On retrouve tout de suite Philippe Besson pour « Ceci n'est pas un fait divers » paru chez Julliard. Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de retrouver Philippe Besson pour un nouveau roman qui est paru aux éditions Julliard, toujours, fidélité depuis quelques années, et ce roman s'intitule « Ceci n'est pas un fait divers ». Et moi j'étais particulièrement touchée par ce livre, d'abord parce qu'il aborde un sujet important, on va largement en parler, mais pour vous suivre, Philippe Besson, de livre en livre, j'ai adoré l'écriture de celui-ci. Je dois dire que j'ai l'impression depuis des années que vous travaillez sur la phrase, sur la justesse du mot correct au bon endroit, et que là vraiment vous avez atteint quelque chose de remarquable. Alors je voulais vous le dire parce que c'est vrai que comme ça on voit progresser un style d'ouvrage en ouvrage, et là tout tombe juste, aussi bien dans l'écriture que dans la finesse de l'observation psychologique. Et c'est ça, moi, qui m'a particulièrement touchée. Ceci n'est pas un fait divers, c'est un sujet d'actualité, malheureusement, de toujours d'actualité, encore d'actualité. Et le fait qu'un homme écrive ce livre, c'est aussi très très important, parce que je trouve que il fallait que ça soit fait, et je vous remercie aussi d'avoir fait. Ceci n'est pas un fait divers, parce qu'effectivement, c'est un drame. On va commencer par un petit détail que vous évoquez dans le roman. Vous évoquez le fait que votre correcteur orthographique, quand vous écrivez « féminicide », n'accepte pas le mot et le souligne en rouge, ce qui est quand même significatif, oui. Sachant que pour certains, c'est encore pire, parce qu'il remplace « féminicide » par « féminité ».
Effectivement. Oui, ce livre, effectivement, traite du féminicide. Et c'est vrai que quand on l'écrit sur son traitement de texte, il apparaît souligné de rouge comme les mots qui n'appartiennent pas au vocabulaire, comme si du coup, ils n'appartenaient pas non plus à notre espace mental ou à notre vie en société. Et c'est ça que j'ai aussi voulu raconter dans ce livre-là. C'est-à-dire que... aujourd'hui, les féminicides sont rangés dans la catégorie des faits divers comme ils l'ont été pendant très longtemps. C'est quelques lignes dans un journal. Voilà, un tel a tué sa compagne ou sa conjointe de X coups de couteau. Les enfants étaient présents. C'était hier à Charleville-Mézières. Bon, dans d'autres villes. Et puis on passe à l'actualité d'après. C'est aussi, les féminicides, une statistique dans un décompte macabre. On sait qu'en 2022, c'est 147 femmes qui ont 147 féminicides qui se sont produits, et c'est formidable que cette statistique existe. Mmh. Je veux dire que c'est fondamental qu'elle existe, parce que cette statistique, au fond, elle nous dit quelque chose, elle nous renseigne.
Oui. Mais derrière les chiffres.
Voilà, mais derrière les chiffres, il faut raconter des histoires, et des histoires d'hommes et de femmes, et des histoires à hauteur d'humanité. C'est ça qui m'importait. Et puis surtout, ceci n'est pas un fait divers, parce qu'il faut, comment dirais-je, tordre le cou à la fable atroce, absurde, sur laquelle nous avons tous vécu pendant des années, qui est celle du crime passionnel. Je rappelle que le crime passionnel, c'est quoi ? C'est « il l'aimait tellement qu'il l'a tué ». Hein, je répète pour qu'on en mesure l'absurdité, il l'aimait tellement qu'il l'a tué. Bon, on ne tue pas par amour, le corps d'une femme n'est pas un champ de bataille. Donc... Et avant, c'était même une circonstance atténuante. Bon, aujourd'hui, on en revient à l'essentiel. Le féminicide, c'est d'abord, avant tout, un crime de propriétaire. Il intervient dans presque 3 cas sur 4 au moment où l'épouse, la conjointe, annonce qu'elle va partir. Ce qui est une façon pour l'homme de dire qu'il refuse cette émancipation, cet affranchissement, cette prise de liberté. Qu'il refuse que sa femme, sa conjointe existe sans lui, en dehors de lui. Il l'a chosifié, il l'a tué.
Complètement.
Voilà. Et donc c'est ça que ça raconte. Et c'est vrai qu'on vient de loin. Et si c'est un crime de propriétaire, c'est parce que nous appartenons à une société du patriarcat qui est fondée sur la domination masculine. Et moi qui suis un homme, je vois très bien, et je m'en suis finalement accommodé pendant des années, enfin nous en sommes tous accommodés, voilà. On savait que c'était là, mais on faisait comme si c'était pas très grave. Bon. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas, d'une certaine manière. Et moi, j'ai voulu faire ça, alors à ma façon, en romancier, en essayant de faire littérature, mais à raconter une histoire pour peut-être éveiller un peu les consciences et pour dire, c'est pas juste une ligne dans un journal, c'est pas du tout un crime passionnel, c'est une vie prise, des vies alentours, qui sont celles des enfants emportés, fracassés.
C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est le point de vue que vous adoptez. C'est-à-dire que vous allez raconter l'histoire d'un féminicide, cette femme va se faire massacrer par son mari, mais le narrateur, c'est le fils, qui n'était pas présent au moment des faits, qui va être interpellé par un coup de téléphone qu'il va le recevoir alors qu'il est à Paris, il apprend la danse, il est à l'opéra. Sa sœur l'appelle, 13 ans, qui, elle, est restée à Bordeaux avec ses parents, et elle l'appelle pour lui dire que papa a tué maman. Et donc, c'est ce point de vue des victimes, entre guillemets, collatérales, ce terme est assez redoutable aussi, que vous adoptez pour raconter ce roman, Ceci n'est pas un fait divers.
Oui, et pour une raison d'ailleurs assez simple, parce qu'en fait, ce livre, il est aussi né d'une rencontre avec un jeune homme qui était concerné au premier chef. Et ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que je m'étais impliqué ou intéressé à la question des féminicides il y a déjà plusieurs années. J'avais même signé en 2018 un manifeste au sujet des féminicides, participé à quelques manifestations, etc. Et pourtant, c'est étonnant, il m'a fallu attendre cette rencontre qui intervient en 2021 avec un jeune homme qui vient me voir dans une librairie et qui j'entame une conversation, et puis on se dit qu'on va se revoir, et on se revoit, et puis quand vous revoyez les gens, vous essayez de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont, donc je l'interroge sur son histoire familiale, et il me dit cette phrase, « Il faut que je te dise, mon père a tué ma mère. » Et donc je suis plongé dans une forme de sidération et de stupéfaction quand il me dit ça, et même de silence, ça me réduit au silence, pour tout vous dire, parce que j'ai pas de phrase derrière, j'ai pas de réplique, parce que tout d'un coup, il n'y a rien qui est à la hauteur, hein, c'est aussi simple que ça. Et encore plus tard, on en reparle, on en parle enfin, et je lui dis, mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ? C'était pas un reproche, mais j'essayais de comprendre comment cette chose-là, qui était si gigantesque, qu'il avait pu la cacher. Bon. Et il me dit deux choses qui ont déclenché l'écriture, enfin, au moins inconsciemment, pas tout de suite, mais j'en suis sûr inconsciemment. La première, c'est la mort de ma mère emporte tout, et moi je suis à côté. C'est ma fameuse victime collatérale, mais je suis à côté. Alors là, vous me connaissez, moi, dès que quelqu'un est à côté, ça m'intéresse. Je ne suis que sur les gens qui sont à côté. Donc j'entends cette phrase-là et je me dis, mais c'est quoi d'être à côté ou d'être d'un événement aussi considérable et d'une mort aussi tragique ? Et puis il ajoute, de toute façon, je ne saurais pas raconter l'histoire. Et là, quand quelqu'un dit « je ne saurais pas raconter l'histoire », moi ça m'intéresse, l'écrivain arrive en se disant « peut-être que moi je peux trouver des mots à sa place, peut-être qu'il faut trouver des mots pour dire l'indicible, pour nommer l'innommable ».
Louis prend son bus, comme tous les matins, il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Yasmine a une belle voix. Elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine.
Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée.
Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, on a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
Thank you.
Et puis ça me ramène à quelque chose qui avait été très moteur il y a quelques années dans l'écriture d'un autre texte, qui était Arrête avec tes mensonges. Quand j'avais appris la mort de mon amour de jeunesse, qui avait vécu une vie dans le silence, dans le déni, dans la honte, dans l'ombre, et puis donc qui meurt, et je me dis, voilà, c'est une vie qui va passer sous les radars, c'est une vie qui va passer inaperçue, personne ne saura jamais rien de lui. Et du coup, je suis plongé, évidemment, dans le chagrin d'apprendre sa disparition, mais dans la colère. Et c'est cette colère qui me guide à ce moment-là en disant « ça ne peut pas être une vie vécue pour rien ». Et il faut qu'on en parle, il faut qu'il existe quelque part, et moi le seul moyen que j'ai de le faire exister, c'est dans un livre. Et bien c'est pareil pour ce jeune homme, et pour tous les jeunes hommes, et pour tous les enfants dont le sort n'est absolument pas traité, nulle part, que j'écris le livre en me disant « c'est quoi la vie après ça ?» Parce que le féminicide est le point de départ du livre, mais après il y a une vie, quelque chose qui essaie de ressembler à une vie, qu'il faut organiser. Et une petite sœur, Léa, en l'occurrence, 13 ans, qu'il faut aller sauver. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire à un moment, c'est des naufragés, c'est des gens qui sont plongés au milieu d'une mer furieuse et seuls, et il faut qu'ils s'en sortent, il ne faut pas qu'ils se noient, il faut qu'ils regagnent la terre ferme. Et donc, j'essaie de comprendre comment on vit ça, ce tsunami, ce tumulte, et cet espoir de retrouver un jour la terre ferme pour ces deux enfants-là.
Alors, ce qui est particulièrement intéressant, Philippe Besson, dans Ceci n'est pas un fait divers, donc paru chez Julliard, c'est qu'effectivement, on va suivre cette histoire à partir du moment où il y a le coup de téléphone et tout ce qui va en découler. Mais si on suit l'histoire de ces deux enfants, il y a en permanence un jeu de miroir avec le lecteur, parce que le narrateur va s'interroger sur tout ce qu'il n'a pas vu. Il va aller voir, il va y avoir l'enquête de police, il va y avoir des témoignages, il va y avoir une espèce de reconstitution à la fois factuelle mais aussi psychologique de ce qui a pu arriver, et ça peut pas nous laisser indifférents. On fait partie de ceux qui ne voient pas.
Oui, et c'est ça aussi que je voulais raconter. C'est-à-dire que, parce que lui, le jeune homme, quand il me parle, il me dit « tu ne peux pas savoir à quel point je me sens coupable ». Alors cette phrase me fait sursauter, parce que je me dis, pour le coup, dans cette histoire, le coupable, on le connaît. Il y en a un, c'est celui qui porte les coups de couteau et qui est en prison pour ça. Il me dit « mais non, tu ne comprends pas, je me sens coupable parce que, évidemment, il y a forcément eu des signaux, même faibles, que je n'ai donc pas vus, ou pas interprétés, ou pas su interpréter. Il y a eu des indices, sans doute, même ténus, que je n'ai pas là aussi compris ou relié entre eux. Et si j'avais été plus attentif, peut-être que j'aurais compris des choses et que j'aurais pu empêcher l'irréparable. » Le jeu très cruel des « et si ». Alors évidemment, c'est une femme qui tout d'un coup se maquille plus, c'est une femme qui tout d'un coup porte des vêtements plus amples, qui cache ses bras, c'est une femme qui est beaucoup plus triste et qui ne danse plus, parce que j'en faisais une femme qui dansait.
Qui prend du Prozac.
Voilà, qui prend du Prozac, mais ça, il ne le voit pas, il le découvre qu'après coup. C'est un père qui a des accès de fureur, de plus en plus rapprochés, de paranoïa et de jalousie, et des crises qui surviennent. Mais lui, il n'en a que l'écho lointain, parce qu'il s'est éloigné, il est à Paris. Donc il ne sait pas ça, et il n'en est pas conscient, il n'a pas envie de savoir. Et puis, il y a autour un écosystème qui est indifférent. C'est-à-dire, il est incarné par un témoin qui croit avoir vu quelque chose, mais qui n'en est pas tout à fait sûr, et qui se dit « est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas ?» Et c'est nous. Et tout ça, c'est nous. C'est-à-dire que c'est l'idée que ces violences conjugales, elles sont autour de nous, mais que soit on ne les voit pas parce qu'on n'y fait pas attention, parce qu'on est dans notre vie personnelle, parce qu'on est centré sur nous et pas sur les autres, soit parce qu'on n'a pas envie de se mêler de quelque chose qui nous paraît être d'ordre privé en se disant « on s'en sort comme ça », en disant « c'est leur histoire et pas la nôtre », soit parce qu'on n'est pas certain, parce qu'encore une fois, la question aussi qui est posée, c'est que souvent ces violences conjugales, elles sont cachées par les victimes elles-mêmes. Parce qu'on sait que ces femmes vivent dans la peur au ventre, elles vivent sous emprise, elles vivent dans la honte, elles vivent aussi avec
la culpabilité d'être responsable.
D'être responsable. Et donc elles se taisent ou elles se cachent. Et donc elles-mêmes ne montrent pas. Donc du coup, ne montrant pas ou ne voulant pas dire, qui serions-nous pour avoir vu quelque chose qu'elles ne montrent pas ou pour vouloir dire quelque chose qu'elles refusent elles-mêmes de dire? Donc on est dans un truc qui est terrible, très compliqué à gérer, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, et nous devons essayer d'avancer en essayant de percevoir quand même un petit peu mieux les brutalités qui se jouent autour de nous, et de voir comment on peut agir. Mais on est très souvent impuissant, et donc du coup on se sent coupable après coup.
Et puis vous évoquez aussi, Philippe Besson, le fait que cette femme avait été déposée une main courante, et que la main courante n'a pas été traitée. C'est aussi un élément factuel, mais qui malheureusement est très courant.
C'est très courant, c'est-à-dire que le problème, c'est que d'abord, dans les violences conjugales, on se rend compte que si on s'en tient aux chiffres tels qu'ils nous sont donnés aujourd'hui, on considère que moins d'une femme sur quatre, déjà, se rend dans un commissariat ou une gendarmerie pour envisager de porter plainte. Donc ça vous donne la hauteur de l'iceberg. Hein. Donc, et après, il faut parler maintenant de celles qui y vont, celles qui ont le courage, la détermination, le désespoir d'aller porter plainte. Et pendant très longtemps, et encore hélas, encore aujourd'hui un peu, elles sont accueillies, alors souvent par des hommes, ce qui évidemment ne facilite pas le dialogue, et par des gens qui leur disent « Écoutez, d'abord, est-ce que vous êtes vraiment sûr ?» Donc, il y a toujours une mise en doute
mais
de la
vous
parole.
« Vous n'avez rien ?»«
Voilà, vous n'avez rien, on ne voit pas de coup sur vous, donc est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il vous bat ?» Bon, sachant que je rappelle que le harcèlement psychologique et les insultes et la perversité narcissique exercée sur un être, ça ne laisse pas forcément de marque sur le corps, mais ça peut amener à des situations tragiques. Et puis après, on dit à ces femmes, vous savez, nous, on traite les troubles à l'ordre public. Là, c'est une dispute privée, conjugale, ça ne nous regarde pas. Arrangez-vous entre vous et réglez ça entre vous. Donc, souvent, ces femmes repartent. En plus, elles n'ont même pas déposé de plainte ou alors une vague main courante à laquelle il ne sera donné aucune suite. Voilà. Donc ça, c'est assez terrible. Ça s'est produit pendant des années et des années et des années. Alors, Dieu merci, les choses changent un tout petit peu depuis quelques temps, on va dire, même s'il y a encore énormément de progrès à faire. D'abord, parce que ce sont souvent maintenant des femmes qui accueillent la parole de ces femmes-là. Donc déjà, on peut espérer qu'il y a un peu plus de psychologues dans les commissariats et la gendarmerie, mais enfin bon, c'est pas non plus la panacée. Et puis surtout, je veux croire qu'un policier, alors j'ai été démenti par les faits il n'y a pas longtemps, vous me direz, mais qu'un policier qui aurait devant lui une femme qui lui dit « Vous savez, je suis battue et je crains pour ma vie », ne lui dirait pas « Rentrez chez vous, madame ». Parce que là, si, ça veut dire que je ne sais pas dans quel monde il vit. Ça veut dire qu'il n'allume jamais la télévision, ça veut dire qu'il ne sait pas qui il y a autour de lui. Enfin bon. Donc je veux croire que maintenant on peut prendre davantage en compte. Mais il reste énormément, énormément à faire. Et en tout cas, il y a quelques années, c'était traité par le dédain ou par l'indifférence, bien sûr.
Oui, voire c'était une menace supplémentaire si jamais le fauteur de troubles l'apprenait.
Oui, bien sûr.
C'était une mise en danger.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Alors, Philippe Besson, ceci n'est pas un fait divers paru chez Julliard, donc on va repartir sur les traces de cette histoire. Effectivement, le narrateur, le fils, va essayer de reconstituer un petit peu les événements. il va partir à la découverte de ses parents parce qu'en fait, on ne connaît jamais l'histoire de ses parents. Et ça, c'est quelque chose que vous affectionnez aussi, de repartir sur les traces. Et il va découvrir qu'en fait, il ne connaît ni son père, ni sa mère. Il va recueillir des éléments anciens, des photos, l'histoire de ce couple, de leur rencontre. Et il va découvrir que cette emprise, comme vous l'évoquiez, elle est extrêmement ancienne.
Oui, c'est ça. Alors ça m'intéressait effectivement de dire que le narrateur, le jeune homme, fait d'abord un travail d'investigation et d'enquête lui-même. Et il le fait pour une raison simple, c'est que c'est une façon pour lui de s'en sortir. C'est-à-dire que c'est une façon d'essayer de ramener de la raison dans ce moment qui est tellement déraisonnable ou irrationnel ou hors de toute intelligence et de toute compréhension. Bon. Il est dans un tel tsunami qu'il s'arrime à ce qu'il peut et chercher à comprendre, chercher d'où ça vient, chercher comment c'est arrivé et donc remonter le fil, c'est une façon pour lui de tenir bon. Voilà. Et effectivement, donc, il doit mener cette enquête sur ses parents et c'est vrai que traditionnellement, on ne sait pas forcément qui sont nos parents et encore moins ce qu'ils étaient avant que nous n'arrivions au monde. Et là, il va essayer de comprendre. Alors, les histoires ne sont jamais blanches et noires, donc ça veut dire qu'il y a toujours une zone au milieu. Et donc, il découvre surtout que ce sont de jeunes gens qui se sont aimés à un moment, parce que avant que les histoires d'amour ne finissent mal, elles sont des histoires d'amour, en tout cas, de rapprochement et de bon. Et donc, il essaie de comprendre qui étaient ces jeunes gens. Il les voit, il interroge, en tout cas, enfin, il les voit dans l'enquête qu'il fait, il les visualise. Et surtout, il comprend à ce moment-là, en menant son enquête, que le féminicide n'est pas un acte surgi de nulle part, qu'il est effectivement l'aboutissement d'un continuum de violence qui n'a pas été repéré. C'est-à-dire qu'au fond, ce mariage a existé, mais très vite, en fait, lui, le premier enfant, se rend compte qu'il n'a pas vraiment été désiré, et que lui, surtout, n'a pas été aimé par son père, qui dit « c'est pas le fils que je voulais ».
Et qu'il a lui-même été victime de violences verbales, d'humiliations.
C'est ça. Et qu'il est d'ailleurs parti parce que voilà, il pourrait échapper à ça. Et il va se rendre compte qu'effectivement, il y a eu assez vite, de la part du père, de la paranoïa, de la jalousie, des phrases très blessantes, qui s'est comporté comme un pervers narcissique qu'il était, et que tout ça a duré longtemps, sans qu'il le voie lui, qu'il le comprenne. Alors, il y a même une phrase à un moment dans le livre où la mère devine que sa petite fille Léa a compris ou supposer quelque chose, et elles ont une conversation à mots couverts où la mère dit à la fille « N'en parle pas à ton frère, on va pas l'embêter avec ça. Ouais, » Le vertigineux ça. Du « avec ça bon. ». Et donc il y a ça, il y a cette idée qu'il va comprendre après coup que les choses se sont mises en place progressivement, et c'est malheureusement souvent le cas, c'est-à-dire que le féminicide est l'aboutissement d'un processus assez long.
Et là où la violence est terrible aussi, c'est que la petite sœur, donc 13 ans, elle est dépositaire de toute l'histoire. Elle a assisté à tout. Elle sait que ça a dérapé avec les gifles. Elle a été témoin, elle a assisté à tout ça, et on lui a demandé de ne pas en parler, comme vous l'évoquez. Et là, elle a assisté également au meurtre, et donc, lui, d'une certaine manière, subit la violence de l'annonce de la mort de sa mère, de la fuite de son père, et que son père est un assassin, mais il est quand même extérieur. Elle est engluée dedans.
Et ça, c'est terrible, parce que ça arrive, hélas, assez régulièrement. C'est-à-dire que il arrive que assez souvent que les enfants soient témoins de ça, et quand c'est des enfants mineurs, vous imaginez le trauma que ça peut générer. Et elle est engluée dans ça. C'est-à-dire que d'abord, elle a vu les choses se faire, donc c'est des images inoubliables, indélébiles. On pourra faire tout ce qu'on veut pendant des années et l'aider, la soutenir, et les images ne partiront jamais. Enfin,
et
voilà.
Le bruit.
Et le bruit, bruit. Absolument. Elle parle du bruit. Elle dit effectivement, poignarder quelqu'un, ça fait du bruit. Et donc, elle vit avec ça. Et puis, elle vit, pire encore, avec, bon, je ne sais pas si c'est pire, mais avec cette ambivalence terrible, qui est que 5 minutes avant le crime, le père était son père. Et que 5 minutes après le crime, il est encore son père. Et comment vous faites dans ces cas-là? Alors, le fils, lui, il prend une position radicale qui est de dire « je range mon père définitivement dans le camp des meurtriers ».
Il était déjà parti.
Il était déjà parti, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. La petite fille, elle est totalement dévastée. Elle ne sait plus du tout où. Elle n'a plus aucun repère. Et donc, quand vous perdez à ce point-là tous les repères et que vous avez cette mémoire traumatique, comment vous vous en sortez? La réponse est très mal et très rarement. Mais c'est ça aussi que je voulais raconter. C'est comment tout d'un coup vous êtes plongé dans quelque chose qui vous dépasse absolument et que tous les travaux de reconstruction qu'on va tenter de faire il faudra qu'il soit patient et lent, parce que c'est un traumatisme très très profond et violent. Oui.
Oui, d'autant plus qu'il y a une perte totale de repères, même matériellement, puisque l'enquête ayant lieu, donc déjà, bon, la mère est morte, le père est en fuite et va être ensuite arrêté et incarcéré, la maison n'est plus accessible.
C'est la scène de crime.
C'est la scène de crime. Mmh. Donc il faut se loger ailleurs, il n'y a plus les vêtements, il n'y a plus les objets rassurants, il n'y a plus sa chambre, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien,
il n'y a plus de repères. Totalement coupé de tout.
Ils sont, en étant privés de... D'abord, ils se retrouvent orphelins, de fait, en une seconde, et ensuite privés de la maison familiale, c'est-à-dire celle dans laquelle ils ont grandi, ils ont eu leur enfance, leur adolescence, leurs souvenirs, etc. Et puis dans laquelle ils ont la vie concrète, la vie matérielle, la vie quotidienne. Et donc, c'est plus possible. Et là arrive ce personnage qui, moi, me portait énormément, qui est celui du grand-père.
Il est magnifique.
Il est un très beau personnage, mais... C'était important pour moi le personnage du grand-père. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est souvent comme ça. Il y a un moment où il y a les grands-parents maternels. Et là, ces grands-parents paternels, on fait pas trop appel à eux. Bon, pourtant, ils sont responsables de rien. Mais dans l'absolu, c'est plutôt vers les grands-parents maternels qu'on se tourne pour essayer de récupérer les enfants. Voilà. Bon, et de les sauver autant que faire se peut. Et donc le grand-père, il débarque de sa Dordogne pour essayer de sauver les enfants, et il le fait avec son bon sens, c'est-à-dire il faut aller à Leclerc pour acheter des vêtements, faut trouver une chambre d'hôtel, il va falloir trouver un appartement, bon, et donc il y va, parce que c'est concret de devoir après apprendre à survivre, et ça m'importait que ce personnage existe, parce que c'est un homme, c'est une façon de dire que quand même tous les hommes ne sont pas violents, parce que si les hommes sont des monstres, la majorité d'entre eux ne le sont pas. Et par ailleurs, c'est un homme d'une autre génération, ce qui m'importait aussi, parce que pas non plus caricatural, parce que quelqu'un d'une autre génération qui considère que oui, les violences conjugales, c'est pas grave, évidemment qu'il le considère que c'est grave. Donc ça m'importait que ce personnage existe, et puis il est plein d'humanité. Mais effectivement, il va essayer de s'occuper des choses matérielles, concrètes, qui est comment on avance dans la vie maintenant, comment on essaie de mettre un semblant de normalité dans quelque chose qui est absolument et intégralement anormal. Et voilà, ils vont avancer comme ça, mais c'est compliqué et délicat.
T'es comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne. Te faire croire le contraire, l'amour ne cogne que le cœur.
Personne te fait
Alors, on ne va pas dévoiler ce qui se passe, Philippe Besson, dans Ceci n'est pas un fait divers, mais il faut dire un mot aussi d'un autre personnage qui est celui qui va mener l'enquête.
Pierre Verdier. Oui, qui est quelqu'un, là aussi, j'ai voulu ne pas être caricatural, c'est-à-dire qu'à la fois, il est donc le gendarme. Donc,
très carré.
Donc il est très carré, il est rassurant d'une certaine manière, parce que voilà, il a un meurtre qui a été commis, une scène de crime qui est identifiée, un coupable à retrouver, un coupable à incarcérer, des pièces à réunir pour un procès qui devra se tenir à un moment ou à un autre. Il fait les choses très bien, d'une certaine manière, voilà. Et il fait ce qu'on attend de lui. Donc de ce point de vue-là, il a un côté rassurant et rationnel. Et puis en même temps, on pourrait aussi dire qu'il manque un tout petit peu d'humanité ou de proximité ou de compréhension du désastre émotionnel dans lequel se trouvent les gens. Et puis à un moment, il comprend surtout que son service a failli et il essaie d'expliquer l'inexplicable, de justifier l'injustifiable. Bon. Mais en même temps, c'est un personnage... Je le sauve, moi, Pierre Verdier, parce que je me dis... Il fait son job, il s'y attendait pas, il est dans une petite ville, parce que bon, c'est une petite ville à côté de Bordeaux, ça s'appelle Blanquefort. J'ai choisi Blanquefort, mais j'aurais pu en choisir une autre, il ne s'est rien passé à Blanquefort. Mais je voulais que ça soit comme ça, une petite ville où tout le monde connaît un peu tout le monde, et il ne s'attend pas à devoir gérer ça. Et il le fait avec son sérieux et son bon sens normal, mais il est un peu, je pense, dépassé par ce qui lui arrive. Et puis surtout, quand vous êtes face à une petite fille, qu'est-ce que vous faites ? C'est très très compliqué.
Oui, et puis il est là pour rappeler aussi des détails importants de la procédure, comme juste un détail qui est extrêmement important quand même, c'est le fait que, malgré le fait qu'il a tué sa femme, le père garde l'autorité parentale.
Ça, c'est une des aberrations du droit français. C'est-à-dire, moi j'ai appris en travaillant sur ce texte, c'est-à-dire que... et puis le jeune homme me l'a dit, c'est-à-dire je me suis dit, c'est pas possible. Je croyais tout ce qu'il me disait, mais il y a eu un moment, je me suis dit, non, c'est impossible. Donc j'ai vraiment cherché les textes, et c'est très clair, c'est qu'effectivement, donc le père garde l'autorité parentale sur les enfants mineurs, pour une raison simple, c'est que tant qu'il n'a pas été condamné, il est innocent, et donc mais de sa prison, il continue d'être un père, et l'homme donc, qui a tué la mère des enfants est donc considéré par le droit français comme quelqu'un qui peut tout à fait élever ses enfants. Et là, on se dit qu'on est dans la folie furieuse. Donc, les associations qui font un travail formidable se battent pour essayer justement de faire changer ces dispositions-là. Mais enfin, il y a une affaire qui défraye la chronique en ce moment, qui est l'affaire Julie Dweeb, où le père a été condamné une première fois, et il fait appel. Et faisant appel, il recouvre donc son innocence initiale, et il dit je veux l'autorité sur mes enfants, qui ne veulent pas de lui. Et donc, on est dans un truc qui est totalement insensé, délirant. Mais c'est ça que ces enfants doivent affronter. Et donc, je trouve que quand on le raconte comme ça, on est évidemment effaré. Et je trouve que c'est là, et ça ramène peut-être à la très gentille introduction que vous avez faite, c'est que je dis que la littérature, du coup, a là quelque chose à dire et à faire et un rôle à jouer. Parce que précisément, on lit tout ça dans les journaux, où on voit des essais qui parlent de ça, où on a des sociologues et des philosophes qui nous en parlent, et c'est très bien qu'ils nous en parlent. Mais à un moment, la littérature, le roman, le récit, voilà, parce que c'est le lieu du sensible, du sensoriel, de l'humain, il va essayer de donner à voir cette histoire autrement et va nous obliger, nous autres lecteurs, là je me mets moi en situation de lecteur, à rentrer dans une réalité qui n'est pas qu'une réalité théorique, qui n'est pas qu'une réalité lointaine, et il faut qu'on comprenne l'histoire et qu'on se l'accapare. Et donc pour ça, il faut la raconter, me semble-t-il, avec les mots des romanciers. Moi je dis souvent que j'ai mieux compris les ressorts de la peine de mort en lisant Les derniers jours du condamné de Victor Hugo, que j'ai mieux compris les ressorts de l'avortement en lisant L'événement d'Annie Ernaux, que j'ai mieux compris les ressorts du racisme en lisant Chien blanc de Romain Gary. L'incarnation fait que ça change tout. Et donc, parce qu'en plus, on ne peut pas échapper à cette incarnation. Il y a un moment, on peut toujours se tenir à distance d'une statistique. Chiffres, voilà. Statistique, on se dit, bon, c'est un chiffre. Puis, voilà. Puis on se dit, je l'ai entendu le chiffre. Voilà, donc je peux dire que je le connais, mais c'est un chiffre. Là, tout d'un coup, quand on vous donne l'histoire telle qu'elle s'est produite, c'est très compliqué d'y échapper. C'est ça que je cherchais à faire dans ce livre.
Oui, mais c'est tout à fait réussi. Ça s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers ». C'est paru chez Julliard. C'est de Philippe Besson.
Time.
question rituelle. Alors, vous allez... maintenant, il y a le film qui va sortir.
Alors, il y a un film adapté d'Arrêtez tes mensonges, le roman de, que j'ai publié en 2017, qui sort le 22 février, avec Guillaume de Tonquédec qui joue donc mon rôle, Jérémy Gillet, qui est un jeune acteur qui me joue jeune, et Victor Belmondo, qui joue le fils de mon premier amour. Et écoutez, c'est une expérience incroyable. Bon, moi, tout écrivain, enfin, je défie beaucoup d'écrivains de dire qu'ils n'ont pas envie que leurs livres deviennent des films. Bien sûr que oui, on a envie que les livres continuent d'exister autrement. Ce n'est pas des objets morts, ce n'est pas des objets figés. Donc, quand on nous dit que ça va devenir une pièce de théâtre ou un film, on est content. Voilà, enfin, on se dit c'est bien, la vie continue. Bon. Donc, moi, j'étais très heureux de ça. Alors, à ceci près, que ce livre est totalement autobiographique ou autofictionnel, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, que ça raconte ma propre histoire et que c'est moi dont on parle. Donc évidemment, quand on a atteint mes romans, je peux toujours dire oui, j'ai. Tous ces gens-là, je les ai inventés, donc je peux regarder ça avec une forme de distance. Bon,
là, sur un écran.
C'est très compliqué d'avoir la même distance sur sa propre vie. Mais pour autant, j'ai été très ému par ce film parce que je le trouve justement juste. C'est-à-dire que c'est un film qui a su prendre les bonnes distances avec la lettre du livre, mais qui respecte absolument l'esprit du livre. D'accord. C'est-à-dire que le réalisateur Olivier Péillon a tiré un fil narratif original, différent de celui du livre. Il a créé des situations et des personnages qui n'existaient pas dans le livre et qui sont extrêmement opportuns. Et en même temps, il est resté sur les mêmes registres, c'est-à-dire l'évocation du premier amour, la perte du premier amour, le souvenir de ces années de jeunesse et de ce que nous en avons fait ou pas fait, de ces vies aussi qui sont passées justement dans le silence ou dans la honte et qui finissent dans le drame, et comment le temps nous a roulé dessus et comment on se regarde des années après. Tout ça est dans le film aussi, qui se termine exactement de la même manière que le livre. Et pour avoir fait des avant-premières un peu partout en France, je veux dire que quand la lumière se rallume, les gens ont plutôt les yeux humides. Voilà. Je suis content et je suis content surtout parce que ils voient Thomas. Enfin, Thomas, c'est le jeune
de
ce premier amour. Et je me dis, j'avais écrit ce livre pour que les gens voient Thomas. Et je me dis, ben, y a un film formidable aujourd'hui, et donc les gens voient Thomas, pour le coup, vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont là dans la salle, et ils sont 200, 300, et ils regardent ce jeune homme, et il existe, enfin. Et donc, c'est une très belle récompense. Voilà.
Donc ça sort...
Le 22 février.
Ça approche. Écriture ?
Je suis en train d'écrire le prochain, en ce moment, comme toujours, j'ai toujours besoin, une fois que j'ai sorti un livre, d'en écrire un autre, alors je n'en dirai pas plus. Sinon, il m'a fallu du temps pour l'écrire, c'est-à-dire il m'a fallu surtout du temps pour sortir de Ceci n'est pas un fait divers. Beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude, j'arrive à, quand j'ai terminé un livre, à passer à un autre. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'un long sas de décompression. Là, l'écriture de Ceci n'est pas un fait divers est une écriture qui m'a pas laissé indemne, pour toutes les raisons qu'on imagine, qui m'a obligé à travailler d'ailleurs différemment de d'habitude, puisque. Le roman, par excellence, c'est le lieu de l'exercice d'une liberté absolue. On fait ce qu'on veut, on invente des histoires, on fait fiction, on invente des personnages, voilà. On se donne aucune limite. Là, j'ai travaillé avec des garde-fous. Le premier d'entre eux, c'était le jeune homme. Je savais qu'il lirait le livre. C'était mes éditrices ensuite, parce que elles sont impliquées dans ces questions de violence conjugale, donc je savais que leur regard serait décisif et pertinent. Mais c'est vrai que c'est très étrange de travailler avec des garde-fous. Là, je retrouve effectivement une plus grande liberté dans l'écriture actuelle de ce roman. Voilà. C'est plus léger. On va dire ça comme ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Besson.
Merci à vous.
Ceci n'est pas un fait divers, c'est paru chez Julia. Et puis, question rituelle. Alors, vous allez... maintenant, il y a le film qui va sortir.
Alors, il y a un film adapté d'Arrêtez tes mensonges, le roman que j'ai publié en 2017, qui sort le 22 février, avec Guillaume de Tonquédec qui joue donc mon rôle, Jérémy Gillet, qui est un jeune acteur qui me joue jeune, et Victor Belmondo, qui joue le fils de mon premier amour. Et écoutez, c'est une expérience incroyable. Bon, moi, tout écrivain, enfin, je défie beaucoup d'écrivains de dire qu'ils n'ont pas envie que leurs livres deviennent des films. Bien sûr que oui, on a envie que les livres continuent d'exister autrement. Ce n'est pas des objets morts, ce n'est pas des objets figés. Donc, quand on nous dit que ça va devenir une pièce de théâtre ou un film, on est content. Voilà, enfin, on se dit c'est bien, la vie continue. Bon. Donc, moi, j'étais très heureux de ça. Alors, à ceci près, que ce livre est totalement autobiographique ou autofictionnel, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, que ça raconte ma propre histoire et que c'est moi dont on parle. Donc évidemment, quand on a atteint mes romans, je peux toujours dire oui, j'ai. tous ces gens-là, je les ai inventés, donc je peux regarder ça avec une forme de distance. Bon, là,
sur un écran.
C'est très compliqué d'avoir la même distance sur sa propre vie. Mais pour autant, j'ai été très ému par ce film parce que je le trouve justement juste. C'est-à-dire que c'est un film qui a su prendre les bonnes distances avec la lettre du livre, mais qui respecte absolument l'esprit du livre. D'accord. C'est-à-dire que le réalisateur Olivier Péillon a tiré un fil narratif original, différent de celui du livre. Il a créé des situations et des personnages qui n'existaient pas dans le livre et qui sont extrêmement opportuns. Et en même temps, il est resté sur les mêmes registres, c'est-à-dire l'évocation du premier amour, la perte du premier amour, le souvenir de ces années de jeunesse et de ce que nous en avons fait ou pas fait, de ces vies aussi qui sont passées justement dans le silence ou dans la honte et qui finissent dans le drame, et comment le temps nous a roulé dessus et comment on se regarde des années après. Tout ça est dans le film aussi, qui se termine exactement de la même manière que le livre. Et pour avoir fait des avant-premières un peu partout en France, je peux vous dire que quand la lumière se rallume, les gens ont plutôt les yeux humides, voilà. Je suis content, et je suis content surtout parce que il voit Thomas, enfin Thomas c'est le jeune homme
de
ce premier amour, et je me dis, j'avais écrit ce livre pour que les gens voient Thomas. Et je me dis, il y a un film formidable aujourd'hui, et donc les gens voient Thomas, pour le coup vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont là dans la salle, et ils sont 200, 300, et ils regardent ce jeune homme, et il existe enfin. Et donc, c'est une très belle récompense. Voilà.
Donc ça sort
le 22 février.
Ça approche. Écriture ?
Je suis en train d'écrire le prochain, en ce moment, comme toujours, j'ai toujours besoin, une fois que j'ai sorti un livre, d'en écrire un autre, alors je n'en dirai pas plus. Sinon, il m'a fallu du temps pour l'écrire, c'est-à-dire il m'a fallu surtout du temps pour sortir de Ceci n'est pas un fait divers. Beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude, j'arrive à, quand j'ai terminé un livre, à passer à un autre, voilà, j'ai pas forcément besoin d'un long sas de décompression. Là, l'écriture de Ceci n'est pas un fait divers est une écriture qui m'a pas laissé indemne, pour toutes les raisons qu'on imagine, qui m'a obligé à travailler d'ailleurs différemment de d'habitude, puisque le roman, par excellence, c'est le lieu de l'exercice d'une liberté absolue. On fait ce qu'on veut, on invente des histoires, on fait fiction, on invente des personnages, voilà. On se donne aucune limite. Là, j'ai travaillé avec des garde-fous. Le premier d'entre eux, c'était le jeune homme. Je savais qu'il lirait le livre. C'était mes éditrices ensuite, parce que elles sont impliquées dans ces questions de violence conjugale, donc je savais que leur regard serait décisif et pertinent. Mais c'est vrai que c'est très étrange de travailler avec des garde-fous. Là, je retrouve effectivement une plus grande liberté dans l'écriture actuelle de ce roman. Voilà. C'est plus léger. On va dire ça comme ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Besson.
Merci à vous.
Ceci n'est pas un fait divers, c'est paru chez Julia.
Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ?
Oui.
Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ?
35 ans, depuis que je suis parti, en fait.
Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt.
Bonsoir, enchanté. Bonsoir, monsieur.
Votre nom ?
Andrieux, Lucas Andrieux.
Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée.
Il n'y en a pas eu 150, hein. C'était mon père, je pense. Vous le connaissez bien ?
Comme ça.
Il faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes.
Allez, viens !
La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ?
Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer, moi, je resterai.
Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi.
Seule fois aussi illuminée, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous ?
Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ?
Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ?
Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication.
Qu'est-ce que tu viens de dire, là ?
Je suis très mal à l'aise, alors on se calme !
Stéphane, tu as ta vie qui t'attend. Et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là.
Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi.
Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qui m'a laissé, c'est des questions.
Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.
Vous, les hommes, êtes tous les mêmes. Macho, mais tu prends de est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous.
prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Radio Libertaire, c'était Philippe Besson qui nous parlait de Ceci n'est pas un fait divers paru aux éditions Julliard, que je vous recommande chaudement. Et nous allons retrouver tout de suite Gérard Guégan qui va nous parler de trois livres dans sa chronique du jour. Le premier ouvrage, ce sera Et pourtant c'est la guerre de Jérôme Orsoni paru aux éditions Abrupt. Le second, ce sera L'envers des ombres, premier roman de Céline Navarre paru chez Gallimard, et pour terminer, Les archives des sentiments de Peter Stamm paru aux éditions Christian Bourgois. On retrouve tout de suite Gérard Guégan. Toujours Radio Libertaire 89,4 MHz et on retrouve la chronique mensuelle de Gérard Guégan avec au programme aujourd'hui trois ouvrages et je crois que tu vas commencer donc par le nouveau livre de Jérôme Orsoni.
Voilà, Jérôme Orsoni et partout c'est la guerre. Derrière un titre tel que celui-ci, on s'attend à trouver une description longue, des considérations sur la guerre, tout ce qui est aujourd'hui fait mode, pas du tout. Pas du tout, on trouve un rouleau, on peut dire que c'est un rouleau, le rouleau de Kerouac, je pense à ça parce que je me souviens à New York la fois où j'ai découvert le rouleau de Kerouac, donc Sur la route.
Sur la route, oui.
J'avais tapé d'un seul jet, et avec une machine à écrire, d'ailleurs je me demande comment il avait fait avec le rouleau. Et donc il fallait déplier le rouleau, dérouler le rouleau pour pouvoir lire son texte. on comprend que ça ait mis du temps à être publié. Et lui, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas un rouleau, évidemment, c'est un livre. C'est un livre qui a en couverture un revolver de la guerre, d'ailleurs de 14 comme de la guerre de 40. C'est un revolver allemand, le fameux Mauser. Et c'est un long poème, 160 pages à peu près, même plus d'ailleurs. Oh non, 160. 160 pages, un poème qui commence comme ça, pas de nom, pas besoin de nom. Ou alors, un, mais tout inventé de toute pièce, qui ne reposerait sur rien. Voilà, donc ça commence comme ça. Ouais. Moi, je suis accroché tout de suite. Je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi il n'a pas besoin de nom et tout ça? Et quelques pages plus loin, on lit, tout est là, l'oubli du passé comme forme du futur, plus rien à déchiffrer. Défricher, sans ombre pour abri, telle ambivalence des sentiments, ne plus savoir que haïr, science mal aimée, tout est là, bavard, comme le nom de quelque chose qu'on donne. Donc, c'est réellement, réellement tout à fait remarquable. Moi, je le dis, ça, c'est quelque chose entre, pour la philosophie, si je puis dire, entre Schopenhauer et en même temps, j'allais dire Prévert, mais ça serait exagéré. Mais c'est vrai, il y a une facilité dans l'écriture du poème qui est très française, mais la philosophie est très allemande. C'est quand même très allemand, très désespérant plutôt que désespéré. Et je vais de nouveau donner un exemple. Je le trouve. C'est ça, les bonheurs d'un livre. Voilà. On pourrait rêver, mais cela ne sert à rien. Tout est là, présent, ici et maintenant. Le ciel voilé au-dessus de moi et la loi morale tout autour de moi. Voilà. Donc c'est une sorte de voyage, une sorte, on pourrait dire, on pourrait paraphraser le titre qui est « Et partout c'est la guerre, par et n'importe où s'en vont les trains ». Sauf que les trains, on peut les prendre au vol, et c'est ce que je recommande comme lecture. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on ouvre à n'importe quelle page, et tout de suite on est pris. Par exemple, à l'instant même, tout en parlant, je viens de le feuilleter encore, et d'un seul coup je tombe sur « On ne changera pas le monde, dit celui que le monde a déjà changé ».
Ouais.
Ça a l'air de rien, mais ça me plaît beaucoup, parce que c'est très exactement ce que je peux observer autour de moi. Quand je parle autour de moi, c'est pas autour de moi immédiatement, là où je vis, mais autour de moi, c'est là où j'ai pensé, là où j'ai agi quand j'étais plus jeune. C'est ce genre de choses qu'on entend. Et voilà pourquoi, donc, je recommande ça. Oui, non, ce que je veux dire, je parlais donc de Prévert. Mais en fait, il y a aussi, parce que c'est pas un poète, c'est un écrivain, Marcel Schwab. Marcel Schwab a écrit un livre magnifique sur Monel, qui est une sorte d'incendiaire qui met le feu à la, plus qu'à la plaine, mais à la terre entière, le livre de Monel. Et il y a ce côté Monel, quoi. Je veux dire, il y a ce côté, c'est à la fois un poème, mais c'est à la fois un poème dont on peut détacher donc des blocs pour en faire des pensées, des axiomes, des... Oui, on peut tout séparer, tout remonter, voilà. Et ça aussi, je pense qu'il en est tout à fait conscient. Ça aussi, c'est tout à fait remarquable. Alors, d'autant qu'il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a ni point, ni virgule, ni majuscule, ni minuscule. Tout est en minuscule. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est un bloc. Et qui est publié d'ailleurs par une maison d'édition.
Oui, que je ne connais pas, moi.
Que personne ne connaît, je crois, qui s'appelle Abrupt, avec un U tréma. Je pense que c'est suisse, oui, c'est Zurich. Et c'est imprimé en Allemagne. Donc, quand je disais qu'il y avait un côté allemand, je ne me trompais pas. Je n'avais pas fait attention. Et alors, il y a quelque chose qui me fait sourire, c'est qu'au-dessus de ce qu'il y a la dernière page des livres sur la couverture pour qu'elles permettent leur vente, ça s'appelle, les traits, les lignes avec des chiffres.
Le code barre.
Voilà, merci. Merci, le code barre. Eh bien, le code barre, au-dessus, il y a le sens des pavés. On se dit, tiens, c'est curieux. Le livre est à 10 euros, l'anti-livre est gratuit.
C'est pas cher, hein.
Oui, non, mais c'est l'anti-livre est gratuit, https://abrupt.cc. Donc tu dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc ça veut dire que si on va sur ce site et qu'on ne veuille pas avoir un livre chez soi et le consulter sur sa liseuse, je sais pas quoi, là, sur son ordinateur, ben voilà, il y a ça. Il me semble que ça veut dire ça. Le livre est à 10 euros, l'anti-livre est gratuit. L'anti-livre, c'est ce qui n'est pas donc imprimé et fabriqué avec du papier et de l'encre. C'est ce qui est évanescent. Voilà, donc vraiment, je prends les paris. Quiconque le lira ne s'en détachera pas si tôt. Voilà. Donc ça, c'était le premier livre.
C'est une belle recommandation, en tout cas.
Oui.
Camarades, vous avez l'oubli trop facile et votre colère tombe vite. Vous êtes vivant, vous aimez rire, le bourgeois raconte qu'il aime rire, alors vous riez avec lui. Pourtant son rire n'est pas le même que le vôtre, ce n'est pas un véritable rire, l'homme rit, le bourgeois ricane. Écoutez, en 1871, les communards sont tombés par milliers. Monsieur Thiers souriait, les femmes du monde souriaient. Elles se payaient une pinte de bon sang. Pendant la fameuse glorieuse dernière avant-dernière grande guerre, le président Poincaré rigolait dans les cimetières. Oh, pas aux éclats naturellement, un petit rire discret, un petit gloussement, un rire d'homme du monde, un joyeux rire d'outre-tombe. Depuis le mois de février, on a tué en France beaucoup d'ouvriers. Et le président Doumergue n'a cessé de sourire, c'est une habitude, un tic. Daimler aussi quelquefois sourit, Tardieu sourit, Hitler aussi. C'est le sourire du capital, le sourire de la bourgeoisie. C'est le rire de la vache qui rit. Un rire aimable, un sourire impitoyable. Excusez-moi, je regrette, dans le fond, je vous aime bien. Et si je donne l'ordre de vous abattre comme des chiens, c'est parce que c'est la coutume. Je suis là pour ça, je ne peux rien. C'est la coutume. Il y a trop de travailleurs dans le monde. Il faut les expédier dans l'autre. Trop de travailleurs, trop de café, trop de sardines, trop de betteraves, trop de fraises de bois, trop d'instituteurs. À la mer, le café, au vestiaire, la canne à sucre, à l'égout, le beurre, aux chiottes, les primeurs. Il ne faut pas rire avec ces gens-là. Il ne faut pas rire avec ces gens-là.
Le deuxième livre est un livre de Céline Navarre, qui est un premier roman. Et ça, je dois dire, j'ai gardé ça de mon passé d'éditeur. Je lis toujours les premiers romans. En tout cas, j'essaie de les lire. Et quand je ne les lis pas vraiment, je les feuillette assez pour avoir une opinion. Parce que là, s'il y a un effort qui a été fait, c'est l'effort, non pas, c'est l'éditeur évidemment, mais c'est surtout l'auteur. Un premier roman, mais c'est comme de descendre dans l'arène, quoi. C'est comme de planter des fleurs et de se dire, pourvu qu'elles fleurissent, de les surveiller, et puis brusquement, comme il y a du silence autour de ce premier livre, premier roman, les grands critiques ont autre chose à faire. Il n'y a qu'à voir les pages de publicité, ça ne change pas. C'est toujours les vieux gagnants qui sont récompensés qui sont louanges. Donc, il faut imaginer ce que ça veut dire que de publier un premier roman. Moi, j'y pense chaque fois. Donc, c'est des livres que je lis attentivement. Et donc, Céline Navarre a écrit « L'envers des ombres ». Alors, on dira « Oui, mais elle est publiée chez Gallimard, elle a bien de la chance ». Certes, sauf qu'en même temps, chez Gallimard, en même temps qu'elle, il y en a 10 ou 15 autres. Et que donc, il va falloir...
Dont ensuite... le Clésio qui sort.
Voilà. Passer l'obstacle de trouver le moyen de se faire éditer. Après, il y a l'autre obstacle, c'est de se retrouver chez un éditeur, certes prestigieux, mais qui est en même temps, ce n'est pas une promesse forcément de découverte, et il n'y aura peut-être pas les attachés de presse sont submergés. Bon, c'est un peu comme... C'est un livre qu'on envoie comme... une lettre dans une bouteille à la mer, quoi. Voilà. Alors, à part ça, cette Céline Navarre a 49 ans, je relève ça, donc je sais pas, ça doit être en dernière page, je pense, évidemment. Et donc, elle a une expérience d'éditrice, elle a travaillé dans l'édition. Le nom ne me dit rien, de toute façon, c'est pas ma génération, donc je peux pas savoir ce qu'elle a fait, où elle était. Et là-dessus, c'est un livre qui repose sur une idée toute simple, une idée qui est d'ailleurs dans l'air du temps, c'est la disparition. Une mère a disparu, la narratrice qui est sa fille, fémine, parce que je ne suis pas sûr qu'elle la recherche vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit évidemment un récit, mais c'est vraiment un roman, et donc elle s'est retranchée dans la province natale où elle était, et le livre s'articule aussi bien autour d'un village, d'une maison perdue dans les champs ou dans les bois, on ne sait pas trop. Il y a de très belles descriptions d'ailleurs de ciel, je dois dire ça aussi, c'est quelque chose qui me retient. Il y a des moments, des pages comme ça formidables. Et le 6e arrondissement, donc on en revient à son premier métier, ou en tout cas sa première occupation, faire de l'édition. Elle a fait de l'édition. Et là, je dois dire qu'il y a des personnages, il y a en particulier un personnage d'éditeur qu'elle a appelé Babel. On pense plutôt à Babybel d'ailleurs qu'à Babel, compte tenu de la description du personnage. Et il y a un viol. La narratrice est violée par l'éditeur formidable qui lui dit « Vous avez beaucoup de talent », parce qu'il l'engage pour relire les textes qu'il reçoit et pour avoir son opinion. Et elle fait ça très sérieusement, et elle croit qu'elle a décroché la timbale, elle a juste décroché le moyen de se faire violer par ce fameux Babel. Et là, sur le viol, je suis en train de chercher la page. C'est tout à fait éblouissant, mais vraiment éblouissant. Ça fait, c'est rare parce qu'il n'y a pas de, fausse tristesse, il n'y a pas de, il n'y a pas de cliché. Tout est sec, quoi, vraiment sec. Et c'est en ça que c'est très très fort. Donc je vais lire quelque chose. Donc elle était en face de l'éditeur, il n'y a plus personne dans la maison d'édition, mais c'est une toute petite maison, donc les 3-4 personnes, les 2-3 personnes qui devraient y être ne sont plus là. Et voilà, il se contente de lever les épaules, puis se lève tout court. Il contourne le bureau et pose une main sur mon épaule. Il serre mes poignets et me plaque brutalement. Il dit « Viens là, toi ». Et ce « viens là, toi », ça m'a rappelé tellement de choses, tellement d'histoires racontées par des amis, femmes. C'est une phrase de faux mec, c'est vraiment lamentable. C'est lorsqu'un type qui a le pouvoir, parce qu'il a le pouvoir, c'est l'éditeur, en face de lui, il a une stagiaire ou future stagiaire, et il la tutoie brutalement, et évidemment, il s'imagine que de dire « viens là, toi », c'est la phrase, le sésame. Et ça continue, le bruit d'une braguette que l'on descend fait un bruissement de spaghettis que l'on casse au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. On en est là. Les mots ne me viennent pas. Une main, des mains. Les émotions passent dans ses gestes et dans nos silences. Ma chaise heurte le sol. Il manque un rond en feutrine à l'un de ses pieds. Le son terne de ma joue s'écrase contre le mur. Tout claque. Une main me bâillonne, l'autre retient ma nuque, penchée en avant. Il se colle de tout son corps, me cambre. Le souffle de sa mâchoire, mes yeux déchirés, les vertèbres craquant, puis le corps qui ne m'appartient plus, se laisse glisser contre ce même mur aux boiseries sombres. La grosse gomme rouge en forme d'hippopotame grelotte sur elle-même. Il entre en moi. Une petite musique flasque de peau mouillée, une humidité triste. Je dévisse, il s'empêtre. Et ça continue comme ça. Ça, je veux dire que c'est tout à fait remarquable. Mmh. Voilà. J'ai rarement lu avec autant de précision la souffrance ressentie par un être humain en face d'un autre qu'est le pouvoir.
Ouais, c'est terrible.
C'est vraiment... voilà. Donc...
c'est Céline Navarre. C'est chez Gallimard.
Oui, voilà. Donc, bravo. Merci de l'avoir dit. Céline Navarre, L'envers des ombres chez Gallimard. Je n'ai plus rien à ajouter. Sinon, oui, quelque chose, achetez-le. Achetez-le. Lisez-le. Volez-le. Allez.
L'enfer sans bruit, sans faire de cri, et rien à dire sauf à hurler. C'est un sale quart d'heure au coin d'une vie, quelques secondes de cauchemar bâclé. Ça s'est passé à toute violence, très vite, très mal, taché, torché, et sans un mot, et en silence. La haine, ça ne se dit pas, ça se fait. Ça se joue la queue le leu, pique et pique, et sans raison. Un siphon, et sauf qui peut, trois petits coups, puis s'en vont. Il serait curé, s'essuyer le cœur, passer par le pire de l'hygiène, se désinfecter de l'intérieur, et se rhabiller là où ça saigne. C'est tout ce qui reste d'un rire plein de sang, gratter, frotter, sécher ses bleus, des cuisses qui veulent serrer les dents, et le ventre qui peut fermer les yeux. Sa pirouette à la sauvette, pique et pique et sans raison, pique-nique et galipette, trois petits coups et puis s'en vont. Plus qu'une sueur, panique à punir, plus qu'un silence sourd à tue-tête, peut-être hurler, surtout rien dire, juste se taire jusqu'à perpète. Et pour un flirt avec l'enfer, il reste qu'un deal avec le pire. Et pour trois secondes de foutre en l'air, c'est plus qu'une vie de haine à jouir. Ça se tire d'elle à bout portant, l'estomac dans le pantalon, un siphon, le viol au vent, trois petits coups et puis s'en vont. Plus qu'à prendre sa rage à deux mains, sa honte dans l'autre, sa rogne en poche, torcher son amour propre à rien. Et s'interdire d'être aussi moche, et s'interdire d'être aussi crasse, c'est que de l'injustice à soi-même. Et surtout, se regarder en face, surtout laisser purger sa haine. Ça se jouera la queue le leu, pique et pique, et sans raison, un siphon, et sauf qui peut, trois petits coups, et puis ils s'en vont, trois petits coupables en prison. Disque rush, les garde-fous, trois petits qu'on enfermeront, triple tour et puis c'est tout.
À part ça, vient maintenant évidemment le, on allait dire le patron, le boss,
oui.
Qui est celui qui a une grande expérience de la littérature derrière lui. D'abord une œuvre assez importante quand même. Je regarde mes notes. Oui, il y a bien une dizaine de livres déjà, dont la plupart sont traduits d'ailleurs et ont été traduits par Christian Bourgois. Et celui-là, les archives des sentiments, les archives des sentiments et non pas les archives de sentiments. Celui-là est de nouveau chez Bourgois, le nouveau Bourgois, pourrait-on dire, mais qui s'appelle toujours Christian Bourgois, la maison d'édition. Donc c'est un Suisse allemand, alémanique plutôt qu'allemand, un Suisse alémanique nous, là, un petit rapport avec Orsoni, qui lui se fait imprimer en Allemagne et à Zurich. Non, à Zurich, c'est la maison d'édition, en Allemagne, c'est l'imprimeur. Donc, là aussi, c'est la disparition, si on l'en veut. C'est un personnage formidable, c'est un personnage qui a l'air de sortir d'un roman de Melville. C'est un homme qui a choisi, au fond, peut-être aurait-il pu être journaliste, grand reporter, passer partout, il préférait être archiviste. Et donc, il est l'archiviste du journal. Et il passe sa journée à classer, à couper, coller, tout ça, etc. Donc c'est un métier extrêmement prenant pour lui. Et c'est un peu comme ceux qui préparent les éloges funéraires dans la presse. Surtout, je veux dire, au Monde, qui en a fait sa spécialité en France. Et je veux dire, c'est un vrai travail d'écrire. Donc il faut des archives au point. Et lui fait ça. Et là-dessus, comme ça, petit à petit, là encore on est sur la disparition, un souvenir l'assaille, il se rappelle une jeune fille, une petite fille d'abord, puisqu'il l'a connue lorsqu'elle avait 8 ans à l'école primaire, et une jeune fille qui s'appelle Francisca, avec qui il n'a plus aucun rapport à partir du moment où on imagine où elle a eu 20 ans. Donc il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu, il y a eu juste la vie sépare, comme on dit, et les a séparés. Et brusquement, ce type qu'on pourrait imaginer voué au silence et haïssant plus que tout la compagnie des humains, eh bien, ce type a besoin de retrouver l'envie brutale de retrouver cette Francisca qui a été une chanteuse, qui était devenue entre-temps une chanteuse de variété à succès, semble-t-il, et le voilà parti. Donc c'est à la fois proche de Melville, et on pense à Bartleby, mais ce serait un Bartleby amoureux. Et là encore, flotte sur ce roman, comme sur le roman de Madame Navarre, le parfum de l'époque. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle époque, c'est réellement le 21e siècle qui a commencé, et le 21e siècle s'annonce pas plus rigolo que ne l'a été le 20e parfois. C'est comme si le Grand Molne, on peut penser aussi à ça, le Grand Molne se retrouvait chez les amnésiques, même noté, ou chez les hommes en quête de leur mémoire, donc ça revient à peu près au même. C'est totalement formidable. Voilà. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup Peter Stamm, je crois avoir lu tous ses livres, je crois, quand je pouvais encore écrire dans la presse, avoir écrit sur quelques-uns de ses livres, et j'ai toujours vraiment aimé ça. Je pense d'ailleurs qu'il est, c'est pas un inconnu pour la presse aujourd'hui, il est connu, il y a eu des papiers, il y a tout ça, donc ça, c'est quelqu'un qui est, donc c'est le patron, voilà. Le patron qui, de nouveau, redescend encore dans l'arène, j'aime bien cette image d'arène, redescend dans l'arène parce que c'est pareil. Je veux dire, le premier roman, on peut s'attendre à être maltraité, sous-traité, délaissé, mais un septième ou un huitième ou un neuvième roman, sous le prétexte de lassitude, il ne fait que redire les mêmes choses, hop, on laisse tomber. Donc on va à l'échec. Voilà, donc c'est parfois, il vaut mieux rester avec ses 8 romans et faire comme son personnage, coller des bouts de papier ou des images en s'inventant un monde qui n'existe plus.
Et c'est toujours le même traducteur ?
C'est toujours, je pense, le même traducteur. Je n'ai pas tout vérifié, mais je pense, dès que je vais voir son nom, oui, c'est Pierre Desus.
Ouais.
Si je prononce bien.
C'est important d'avoir aussi une traduction qui continue d'un livre à l'autre, quoi, que ce soit la même personne qui ouais. s'occupe d'un auteur. Et c'est bien que l'éditeur ait fait ce choix-là.
Oui, c'est vrai que tout ça est bien, mais c'est surtout, c'est vrai que la traduction, on n'a pas l'impression que c'est traduit. Voilà. Et moi, pour moi,
c'est ça, c'est important.
C'est ça qui est J'aurais bien aimé trouver une ligne avant de terminer, mais bon, ça sera pour une autre fois. Ah non, il y a peut-être quelque chose que j'écris sur les livres. Non, il n'y a rien. Allez, je n'ai pas trouvé. Ok, on termine là-dessus. Donc, je le redis, c'est réellement un très, très beau livre. Donc c'est ça, fait, les trois livres sont très bien.
Voilà, ça s'appelle « Les archives des sentiments », c'est de Peter Stamm, et comme tu le disais, c'est paru chez Bourgois.
Voilà, merci.
Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission Idéaux et Débats. J'espère que vous avez eu plaisir à l'écouter. On se retrouve dans 2 semaines, comme d'habitude, avec au programme 2 autres romans. Le premier, ce sera celui de Marilyn Desbiol, qui parle de la grève des ovalistes à Lyon au XIXe siècle. Et le second, ce sera Éric Faye, qui nous parlera du plan de restructuration dans un organe de presse. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire, c'est 89.4. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines. Portez-vous bien.
Radio Libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.